Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très heureux quand nous savons très nombreux sur la 93.5. Quand il sonne 11h sur votre radio, vous savez que le rendez-vous est toujours pris et c'est pour 90 minutes de débat sur la 93.5. Le régime parlementaire à la Togolaise s'est définitivement installé depuis le samedi 3 mai dernier à travers la désignation du président du conseil et l'élection du président de la République suivi de leurs prestations de serment. En quoi le régime parlementaire est-il adapté au contexte togolais? Le changement de république suffit-il à changer le quotidien des Togolais? C'est autant de questions que nous poserons à notre invité, professeur Sorana Batsana, professeur titulaire dans les universités du Togo. Professeur, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien, professeur.
Je vais très bien.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'honneur qui m'a été fait en m'invitant à ce débat, et j'espère apprendre aux côtés des journalistes et des professionnels des médias que vous êtes sur la 5e République et l'actualité togolaise.
Nous espérons apprendre également de vous, professeur. C'est pour cela que nous vous avons invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission. Code de la presse de ce vendredi 9 mai 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiro, Radio La Paix à Tapamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous le savez très bien, vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous avez aussi le privilège de nous suivre sur nos médias ou nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec mes invités et aussi confrères journalistes en studio avec moi. Mes invités, Gabin Adjaro, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour aux radiophiles et bonjour surtout aux professeurs ici présents.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. J'espère que vous avez bien passé la semaine.
Oui, on rend grâce. C'est moi qui suis honoré d'être invité à cette émission de grande écoute.
Merci. Je rappelle que vous êtes juriste et bien sûr analyste politique aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sami Orosama, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin un peu partout à Lomé et dans les localités environnantes. Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique aussi, mais défenseur aussi des droits humains. Merci d'être là dans cette émission. Firmin Tekouabo, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation.
C'est tout un plaisir.
Vous êtes journaliste et chroniqueur politique. Vous vous intéressez beaucoup à la question politique, bien sûr, et dans cette émission, vous aurez votre mot à dire. Merci d'être là.
Merci aussi.
Merci. Professeur, c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes chrétien catholique, mais l'actualité depuis hier est marquée par le nouveau pape que nous avons. Bien sûr, le pape a été élu, la fumée blanche est finalement sortie, où Robert Francis Prévost, sous le nom de Léon XIV, est désormais pape, c'est lui qui se au pape François. Et comment vous appréciez cette information?
Et j'ai suivi l'actualité hier, comme tout le monde d'ailleurs, et depuis est mercredi. J'ai été agréablement surpris par le fait que on n'a pas pris suffisamment de temps pour désigner un pape. Cela suppose que la personnalité qui a été élue a fait consensus. Et lorsque on regarde un peu son parcours, on se rend compte qu'il n'y aura pas, véritablement pas de rupture avec le pape François. C'est une sorte de continuité qui connaît les différents continents. L'Amérique, et l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Il a des origines européennes et a fait l'Italie. Et il me semble qu'il connaît un tout petit peu aussi l'Afrique. On reste dans la continuité avec le pape François, comme d'ailleurs on restera dans la continuité entre la 4e et la 5e République au Togo.
Alors, de quoi aimerait plutôt, quand on prend les Africains surtout, et les Africains aimeraient plutôt ou souhaiteraient que le pape soit africain, est-ce que cette fois-ci aussi ça a échoué, on pourra dire, parce que est-ce que c'est une déception?
Je ne peux pas parler de déception, même si on aurait souhaité que on apporte de la couleur noire à la papauté. Mais ce n'est que partie remise. Il faut donc dire qu'il ne s'agit véritablement pas d'une victoire d'un camp sur un autre. C'est un processus, c'est une élection. Vivement que pour les prochaines fois, que les candidatures ou les cardinaux africains puissent avoir l'assentiment des autres pour qu'on ait un pape noir.
D'accord. Vous avez parlé de 5e République maintenant. C'est vrai que depuis le samedi dernier, c'est-à-dire le 3 mai marque même d'ailleurs une nouvelle ère institutionnelle avec la désignation du président du Conseil et l'élection du président de la République suivie de leur prestation de serment. Alors, professeur, pouvez-vous revenir sur le sens donné à ces événements?
Et disons que pour l'historien que je suis, le 3 mai 2025 marque une étape, une date importante dans l'histoire politique du Togo, comme d'ailleurs un certain nombre de dates. Ça marque le passage définitivement de la 4e à la 5e République. Et l'élection du président de la République par le Congrès et celui, ou plutôt celle, du président du Conseil par l'Assemblée nationale tourne définitivement la page de la 4e République. La transition est terminée. La transition étant terminée, on rentre en plein pied dans les institutions de la 5e République. On va dire vive le pape, vive la 5e République aussi au Togo.
Vive la 5e République aussi au Togo. C'est vrai, l'événement, on a suivi tous ensemble alors cet événement, mais on aura justement cette question à poser. Pourquoi une nouvelle République?
Disons que de façon générale, une nouvelle République vient marquer une rupture. Et lorsque on regarde le contexte historique et politique togolais, les différentes républiques que nous avons connues, à l'exception de celle de 1980, l'ont été dans un contexte de déchirement total et de controverse entre les différents acteurs politiques. Ce sont donc pour l'essentiel des constitutions chrysogènes qui sont nées d'une crise et qui peuvent apparaître comme la victoire d'un camp sur un autre. Pour ce qui est de la 5e République, on va se rendre compte que pour une des rares fois, le Togo n'était pas en crise. Et donc, on peut donc estimer que, parce que le Togo n'était pas en crise, les acteurs ont pris suffisamment le temps de réfléchir sur le contexte togolais et se dire que véritablement, c'est le moment ou jamais pour faire table rase du passé et reprendre à nouveau pour que on puisse espérer des lendemains meilleurs pour le Togo.
D'abord, comment vous appréciez ces deux événements qui ont eu lieu le samedi 3 mai dernier?
Pour moi, ce sont des événements naturels parce que ça devait arriver depuis l'élaboration et l'adoption de la constitution du 6 mai 2024. On peut se dire que l'installation de ces institutions-là, forcément, ça va arriver un jour. Et le 3 mai a été choisi par les autorités compétentes pour mettre en place les institutions les plus importantes de ces républiques-là, puisque la constitution qui consacre la 5e République est dotée côté de plusieurs institutions. Ça aussi, on va, je pense qu'on va revenir sur ce débat-là. Donc, moi, je n'ai pas été surpris hein, par ces prestations de serment, la cérémonie qu'il y a eu. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à la prestation du serment du PC. Beaucoup disent que non, on nous avait dit PCM et aujourd'hui, on nous parle de PC. Je dis non. Dans la Constitution, ce qui est écrit, c'est le président du Conseil et non le président du Conseil des ministres. C'est abusif de dire que ça, c'est le président du Conseil, c'est le président du Conseil des ministres.
Mais en fait, c'est sous d'autres cieux, l'appellation est là, c'est-à-dire peut-être quand tu prends l'Italie, c'est le président du Conseil des ministres.
Oui, ça veut dire que ce n'est pas unanime. Italie, président du Conseil des ministres, Allemagne, c'est le chancelier ou bien chancelière. Dans d'autres pays encore, c'est le en Angleterre, c'est le premier ministre. Ça veut dire que ce n'est pas figé, ce n'est pas unanime. Hein. Tous les pays peuvent choisir le nom qu'ils veulent. Le plus important est que cela respecte les normes. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, je n'aimerais pas qu'on fasse d'amalgame par rapport à ce nom-là. Donc, c'est pourquoi je dis que dans la Constitution de la Ve République, ce qui est écrit, c'est le président du Conseil et non le président du Conseil des ministres. Donc, tenons-nous à cela. Maintenant, par rapport au défilé qu'il y a eu, et puis bon, les gens ont pris ça comme une défiance du PC par rapport au président de la République, j'aimerais dire que ces deux institutions-là ont quand même leurs prérogatives. Et le président du Conseil, c'est lui qui est le chef des armées. Donc, c'est tout à fait normal que ces corps habillés-là puissent prêter quand même allégeance au chef. Et c'est tout à fait normal, ça se passe dans tous les pays. C'est la même chose. Si c'est le président de la République qui détient la quintessence du pouvoir et est chef suprême des armées, bon, ça va se faire au chef de l'État. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus de pédagogie aussi pour que les gens arrivent à comprendre un certain nombre de choses parce que beaucoup de personnes ont cru que bon, on a laissé de côté le président de la République et puis on a festoyé beaucoup plus pour le président du Conseil. Je dis ce n'est pas ça, c'est l'ordre de la République qui veut que les choses se passent ainsi. Donc pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait normal ce qui s'est passé le samedi, passé le 3 mai. Et moi, je ne vois rien de mal à dire à ça.
D'accord. Samir, vous aussi, vous avez l'impression que c'est dans l'ordre normal des choses, tout ce qui s'est passé le samedi?
Mais écoutez, Pascal, lorsque vous adoptez une constitution qui rentre en vigueur après promulgation par le président de la République, et que dans cette constitution, il y a une disposition, notamment l'article 95, qui stipule que les institutions de la République doivent être mises en place dans un délai de 12 mois. La Constitution est rentrée en vigueur le 6 mai 2024. Ça veut dire que, quand on fait bien les calculs, le délai légal pour qu'on puisse passer de la 4e République à la 5e République de façon formelle, c'est le 5 mai. Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement qui a été mis en place a travaillé pour qu'on puisse avoir l'essentiel de la 5e République. L'essentiel, c'est quoi? C'est les différents pouvoirs, donc le pouvoir législatif qui est incarné désormais par le Parlement, composé de deux chambres, donc la première chambre qui est l'Assemblée nationale, et la seconde chambre qui est le Sénat, parce qu'il y a un amalgame qui continue toujours. Le constituant togolais n'a pas consacré la haute chambre et la basse chambre, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que dans le choix constitutionnel qui a été opéré par le Togo, il n'y a pas une appellation haute chambre, basse chambre, c'est comme ça, non? C'est la première chambre incarnée par l'Assemblée nationale et la seconde chambre qui est donc le Sénat. Et
après, est-ce que ça aussi c'est la particularité du régime parlementaire togolais?
Mais vous savez, le régime politique, j'ai comme l'impression, peut-être que l'expression beaucoup plus, comment je vais dire ça, sacralisé. En fait, le régime politique, c'est la manière dont les pouvoirs sont organisés dans un État. C'est-à-dire que vous prenez par exemple nos États africains, après l'accession à la souveraineté internationale, on a choisi d'organiser les pouvoirs, c'est-à-dire le mot de désignation de ceux qui incarnent les différents pouvoirs dans un État. Et ensuite, les compétences qui sont dévolues donc à chaque pouvoir, et après, de faire en sorte que on puisse avoir un modèle de rapport entre ces pouvoirs-là. C'est ça, c'est ça, au fait, la manière d'organiser les pouvoirs dans un État. Donc, chaque État, au regard des considérations historiques, au regard des considérations sociales et au regard des considérations institutionnelles, donc de l'évolution institutionnelle de la gouvernance de l'État, on fait le choix sur le modèle de régime que nous voulons, sur la manière dont nous voulons organiser le pouvoir, et c'est le choix là qui a été fait, qui a été opéré par le constituant togolais. Donc en fait, c'est nous, notre manière d'organiser le pouvoir. On peut ne pas calquer ce qui se fait ailleurs comme régime parlementaire. Il faut qu'on sente qu'il y a une considération endogène des réalités togolaises véritablement. Donc nous avons fait le choix dans ce sens-là, et donc c'est dans l'ordre normal des choses. Donc au fait, c'est que à un moment donné, ben, le gouvernement de transition n'avait pas le choix. Il fallait faire en sorte que les institutions majeures, c'est-à-dire que ceux qui incarnent les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires, soient fondamentalement mis en place. Après, il y a les institutions de la République. Il y a d'autres qui existent déjà, d'autres qui ont été refondées carrément, qui vont être revisitées parce que ce sont les lois organiques qui créent ces institutions-là. Il faut réviser donc ces lois organiques-là, il faut introduire donc les considérations que le constituant togolais a voulu apporter. D'autres ont vu leurs compétences s'étendre, d'autres ont vu leurs compétences se restreindre, d'autres ont vu d'ailleurs même leur manière de fonctionner et de s'organiser améliorer considérablement. Donc je pense que le plus important, c'est que nous avions à l'époque comme mission de faire en sorte que les institutions fondamentales qui incarnent la 5e République puissent être mises en place. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un président du Conseil qui est pratiquement la même chose que le président de la République dans un régime présidentiel. C'est-à-dire, rien ne change véritablement. C'est-à-dire, on était dans un régime présidentiel où il y avait un président de la République incarné par la personne du président Fonia Singbe. Et donc, là, on rentre dans un régime parlementaire. Et le président que nous avions à l'époque dans un régime présidentiel retrouve l'essentiel du pouvoir exécutif dans le régime parlementaire. Et à côté, nous avons voulu, je pense que c'est une considération géopolitique et en même temps une considération de faire en sorte qu'on puisse renforcer le vivre ensemble, la réconciliation, l'unité nationale. Et on a créé la fonction ou l'institution, la présidente de la République, qui est incarnée par un président de la République, qui est une fonction symbolique et qui est le garant de l'unité nationale, peut-être à qui on a attribué un certain nombre de pouvoirs, notamment l'accréditation des ambassadeurs, l'inauguration donc des chrysanthèmes et tout cela. Mais en fait,
d'aucuns disent que le président n'a pas assez de pouvoir.
Mais en fait, ils ont raison. Parce que celui qui détient l'essentiel du pouvoir, c'est le président du Conseil. Mais au-delà, je pense que nous devons nous mettre en tête qu'en réalité, lorsqu'on adopte une loi ou lorsqu'on révise une loi, puisqu'en droit, il y a des caractéristiques de la loi. La loi est d'ordre général. C'est-à-dire que la loi n'est pas personnalisée.
Il y a un relais impersonnel.
Il s'est fait que le président de la République sortant, le président Fonia Singbe, se retrouvait dans les conditions définies par la loi pour être président du Conseil. Donc, en fait, ce n'est pas que c'est une loi qui a été reformée pour s'adapter à une personne et pour permettre à une personne de pouvoir rester au pouvoir à vie. Ce n'est pas dans cette logique-là que cette constitution a été mise en place. Et d'ailleurs, je peux rassurer tout le monde que le président de la République, Fonia Singbe, ne va pas rester à vie au pouvoir parce qu'en fait, nous avons fait le choix depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale d'inscrire en lettres d'or dans la constitution le mécanisme qui permet donc de renouveler les instances donc de la République, et ce mécanisme, ce sont les élections.
Mais c'est bien ce que vous dites, quand on a déjà le président du Conseil qui n'a pas un mandat limité, là, ça veut dire qu'au fin fond, il y a quelque chose quand même comme cela, c'est-à-dire on donne tout le pouvoir et que le mandat n'est pas limité. Est-ce que ce n'est pas forcément pour que le président du Conseil soit là?
Non, en fait, le mode de fonctionnement du régime parlementaire fait que le président du Conseil n'est pas directement soumis au suffrage universel direct. Vous comprenez? En fait, ça permet à ce qu'on puisse accorder une certaine importance. D'ailleurs, même quand vous prenez la chronologie des institutions et la manière dont les dispositions sont organisées dans la Constitution, le Parlement est la première institution qui est organisée dans la Constitution. Cela montre l'importance que le constituant a voulu apporter à cette institution de la République qui incarne le pouvoir législatif, de faire en sorte que
l'organisation des pouvoirs au Togo tourne désormais autour donc de ce Parlement-là, d'accord. Donc de l'Assemblée nationale et du Sénat.
D'accord. Oui, mais Firmin, est-ce que vous avez compris le fait que déjà il y a eu toute une mobilisation autour de la prestation de serment du président du Conseil par rapport au président de la République. Enfin, on n'a pas senti quand même cette mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous avez compris cela?
Oui, moi je l'ai compris parce que le président du Conseil, c'est lui le patron. C'est lui le patron selon la Constitution. Et puis, c'est lui que les Togolais ont élu indirectement. C'est-à-dire que la liesse populaire que nous avons observée le samedi passé, c'est la suite de ce qui s'est passé en 2024. Le parti Unir avait gagné. Les électeurs, les sympathisants et partisans s'étaient mobilisés, avaient festoyé. Et aujourd'hui, un an après, c'est presque la même chose. Ce pourquoi ils avaient voté, c'est les résultats aujourd'hui qu'ils sont en train d'observer. Alors, raison pour laquelle on a observé des fêtes un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire observer, vous savez, moi, c'est un peu à titre subjectif. Moi, pour moi, c'est ma première fois de vivre un régime parlementaire comme ça pleinement. Au Togo, peut-être dans les années 90, on n'était pas encouragé, on était trop petit. C'est un peu intéressant, on va voir ce que ça va donner. Mais la troisième chose, c'est un peu objectif. Vous savez, quand on voit un peu les années 90, début des années 90, et ce qui est en train de se passer, c'est comme l'histoire est en train d'être inversée. Regardez par exemple, aujourd'hui, nous avons... Dans les années 90, on avait les Kofigo, les Savi de Tobé qui occupaient la primature, c'est-à-dire l'esprit opposant qui occupait la primature, la présidente du Conseil, parce qu'à l'époque, c'était un régime parlementaire. Et c'était là où étaient concentrés tous les pouvoirs. Et à l'époque, Nassimbe Yadema, c'était lui qui inaugurait les chrysanthèmes, président de la République, il n'avait pas assez de pouvoir. Mais plus de 30 ans après, vous voyez par exemple, c'est comme la même chose qu'ils ont repéré, mais de façon inversée. Il y a l'esprit opposant, l'esprit Savi de Tobé Kofigo, qui reviennent à la présidence de la République. Or, c'était eux qui occupaient la présidence du Conseil dans les années 90. Et aujourd'hui, Nyasimbe, qui occupait la présidence de la République, descendent à la présidence du Conseil. Je pense que l'histoire du Togo, elle est bizarre. Mais je ne sais pas si les gens voient ça. Elle est un peu bizarre. Moi, je me demande si ce n'est pas spirituel. Tout ce qui est en train de se passer, moi, je me dis que bon, c'est des choses normales. Nous allons juste suivre ça. Et nous prions Dieu que ce régime parlementaire marche. Parce que notre objectif est que ça marche. Parce que ça ne marche pas, c'est le Togo qui perd. Ça marche, c'est notre première fois de vivre pleinement régime parlementaire au Togo. Alors, moi, je souhaite bonne chance à ce régime parlementaire.
D'accord. Professeur, en quoi le régime parlementaire est-il adapté au contexte togolais, c'est-à-dire à nos réalités?
Et je voudrais, avant de répondre à cette question, faire une petite observation en disant qu'on va rester cartésien. Et en lien avec nos débats doivent être des débats impersonnels. Et impersonnel et voir les institutions et non les hommes. Relativement à la présidence du Conseil, et pour moi, il n'est pas question de penser que celui-ci ou celui-là restera à vie au pouvoir ou non. C'est comment on organise les pouvoirs et comment on accède au pouvoir. Autrement, aujourd'hui, l'essentiel du pouvoir est entre les mains du Parlement. Donc le jour où le Parlement changera de majorité, et le PC changera aussi. Et donc, vous ne pouvez pas dire que le PC a un pouvoir illimité. Son pouvoir et son mandat sont fonction du mandat du Parlement et de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, le président du Conseil, le président Faure Gnassingbé, est le leader incontesté du Parti Uni. Demain, si le Parti Uni, qui est aujourd'hui majoritaire et à l'Assemblée nationale, décide de changer et son chef, et le président du Conseil également changera. Donc je pense qu'il soit important de le préciser. Maintenant, est-ce que le régime parlementaire est adapté au contexte togolais? Je voudrais rappeler que, et vous le savez déjà, en 2017, il a été mis en place une commission pour réfléchir sur les réformes politiques et institutionnelles et constitutionnelles. J'étais l'un des rapporteurs de cette commission, et je vais vous faire un aveu. non pas en lien avec cette commission, mais en lien avec les réflexions qui ont été menées et les réflexions qui étaient les miennes et à l'époque sur la base du, on va dire, des traditions togolaises. On était tous d'accord pour dire que nos différentes constitutions étaient et à la limite des copies collées des constitutions de nos anciennes métropoles. Et que parfois, ces copies collées-là ne cadrent pas avec nos réalités. Et nous avons tous conscience que depuis que le processus partisan a été inauguré au Togo dans les années 46, les élections ont été toujours des élections disputées, querellées, voire violentées. Et les élections les plus violentes sont des élections présidentielles lorsque le président de la République a été institué. Donc pour nous, il était question de voir à l'époque comment on fait pour qu'on règle définitivement le problème de violence politique, de violence électorale au Togo. L'une des pistes qui avait été envisagée à l'époque, c'est de voir comment on désacralise le poste du président de la République et le ramener à une dimension humaine. Mais au-delà de ça, lorsque on regarde un peu l'organisation sociopolitique des peuples qui constituent aujourd'hui le peuple togolais, on est tenté de dire que le régime qui nous incarne le mieux est le régime parlementaire. Je vais prendre deux ou trois exemples pour illustrer ce que je dis. Lorsque vous regardez le Togo avant l'intrusion coloniale, c'est vrai qu'on n'avait pas de grande royauté comme c'est le cas au Dahomey ou en Gold Coast ou même en Côte d'Ivoire, mais nous avions des chefferies émiettées et quelques organisations sur la base des États. On pourra citer la cité, on pourra notamment citer la cité-État de Notchin. La cité-État de Notchin, comment est-ce qu'elle était organisée? Sur la base de ce que nous appelons aujourd'hui toute l'ère Adja Eve. C'est autour de Tado d'abord, puis de Notchin. Mais justement, dans le vécu populaire, on a présenté le roi Agokoli comme étant un roi sanguinaire, un dictateur qui a fait fuir la population. Justement parce que Agokoli a voulu rompre et avec la tradition qui était celle des Adja Eve, où le roi, le Togbe Agni, était en réalité une personnalité à la limite divine, nous sommes d'accord, divine, et qui était sacralisée. Et donc, ce n'est pas elle qui avait entre ses mains les pouvoirs réellement politiques, mais les pouvoirs politiques étaient distribués entre les différents notables qui entouraient et qui conseillaient le roi. D'ailleurs, aujourd'hui encore, lorsque vous arrivez dans le royaume de Tado, donc à Tado, il n'est pas facile d'aller rencontrer le chef parce qu'il a une dimension divine. Et c'est lorsque Agokoli a voulu sortir de sa réclusion et refuser d'être la dimension divine pour occuper les postes politiques que finalement les populations qui en avaient marre ont décidé de quitter Notchin, d'où l'exode des évêques de Notchin. Donc pour dire que dans ce contexte-là, oui, lorsque vous voyez l'organisation sociopolitique de cette communauté, l'ère Adja Eve, le régime qui lui ressemble, c'est le régime parlementaire. On pourra aussi noter celui du royaume de Sansané-Mango. Le royaume de Sansané-Mango, vous allez vous rendre compte que le pouvoir est réparti entre les différents clans. Ceux qui occupent le pouvoir politique n'avaient pas le pouvoir religieux et ceux qui avaient le pouvoir religieux n'avaient pas le pouvoir économique. Donc le pouvoir, les différents pouvoirs étaient répartis entre les différents clans que constituait la ville. De sorte que le chef politique n'était véritablement celui-là qui avait. Donc on se rend compte que dans les zones où il y avait une sorte d'organisation, l'organisation était plutôt semblable à un régime parlementaire. Et donc, pour revenir au contexte togolais, nous avions pensé à l'époque, sans dire que c'était le régime parlementaire, qu'il faut trouver un moyen pour désacraliser le président de la République et le ramener à la taille humaine. Et les constituants de 2004 ont pensé que pour le faire, il faut ramener l'essentiel du pouvoir entre les mains d'un président du Conseil et que le président de la République, justement, incarne cette carrue de rassembleur et ne soit pas trop actif dans le débat politique, de sorte qu'il incarne l'unité nationale. Donc moi, je pense que aujourd'hui, sans faire fine bouche, le régime qui nous ressemble le mieux est le régime parlementaire. Maintenant, attendons de voir comment est-ce que les institutions vont... Enfin, les institutions ont été déjà mises en œuvre, mais comment est-ce qu'elles vont fonctionner? Et pour moi, tous les débats résident là. Comment faire en sorte que le fonctionnement puisse respecter ce qui a été écrit? Parce qu'il ne suffit pas de mettre en place les institutions, il faut les faire fonctionner. Et c'est dans le fonctionnement qu'on devra pouvoir apprécier le rôle fondamental que le législateur a fait en 2020.
Oui, mais professeur, sur ce plan, il y a d'aucuns qui pensent que, déjà, étant donné que c'est les mêmes personnes qui sont là, automatiquement, ça ne va rien changer. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez alors de cela?
Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle les mêmes personnes. Les mêmes personnes où? Les mêmes personnes où? Nous avons quatre grandes institutions. Le président de l'Assemblée, il n'est président de l'Assemblée que depuis un an. Le président du Sénat vient d'être élu. Le président de la République vient d'être élu, ainsi que le président du Conseil. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faut, le noter. Les quatre principales personnalités aujourd'hui ne sont pas tous d'un même bord politique. Peut-être faut-il rappeler que le président de la République, qui a prêté serment le 3 mai passé, incarnait, il n'y a pas très longtemps encore, l'opposition du Togo. Et enfin, je peux me risquer de dire qu'il n'a pas une carte unie, puisque la CPP a revendiqué son appartenance à ce parti-là. Donc pour dire oui, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont les mêmes personnes qui sont là. Attendons de voir comment est-ce que les choses vont marcher. Et puis, lorsque vous voyez même le Parlement, et soyons honnêtes pour dire que tous ceux-là, les visages qui ont incarné le Parlement ces dernières années, ce ne sont plus les mêmes visages qu'on retrouve au Parlement du Togo, et les sénateurs sont parfois des figures nouvelles qui mélangent opposition et unis. Maintenant, espérons que la mayonnaise puisse prendre pour qu'on puisse espérer un lendemain meilleur pour le Togo.
À l'annonce alors de cette nouvelle constitution, c'est vrai, il y a eu des contestations, surtout la classe politique, notamment de l'opposition, a contesté même d'ailleurs cela. Il y a les contestations qui continuent. Mais est-ce que vous trouvez ces contestations légitimes?
Oui, moi je pense que les contestations sont légitimes. Elles sont légitimes et chacun est dans son rôle. Oui, le rôle de l'opposition, c'est de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait, si effectivement ce qui se fait, elle n'est pas d'accord avec. Donc pour moi, le problème n'est pas celui de la contestation. Maintenant, on conteste, mais on propose quoi? Pour moi, c'est là où réside le vrai débat. Et la démocratie veut que, effectivement, que celui qui n'est pas d'accord dise qu'il n'est pas d'accord. Mais quand il n'est pas d'accord, il propose quelque chose sur lequel, et vous voyez les débats, et ailleurs, c'est idée contre idée. S'il suffit simplement de mobiliser les gens pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait sans aucune proposition, il me semble qu'on risque d'être dans ce schéma-là de façon permanente. Or, le but, l'objectif de l'opposition, c'est de montrer que ce qui se fait n'est pas bon et de convaincre la population de ce qu'il faut lui faire confiance et voter prochainement pour elle. Mais si tout simplement on dit que ce n'est pas bon sans aucune proposition pour crédibiliser la position de l'opposition, c'est là où moi je pense que il y a du travail à faire. Et je ne veux pas me présenter comme un donneur de leçons, mais lorsque vous regardez l'histoire politique du Togo, que je peux me permettre de dire que je connais un tout petit peu, j'ai l'impression que l'opposition est plutôt dans la réaction que dans l'action. Or, la réaction ne vous permet pas de venir au pouvoir. Il faut plutôt être dans l'action avec des idées nouvelles, des propositions concrètes qui permettent à la population de vous faire confiance. Et je pense c'est légitime ce qu'ils font. Maintenant, il faut passer, il faut aller au-delà de la contestation pour faire des propositions concrètes.
D'accord. Gabin, vous trouvez aussi légitime la contestation à l'ordre de l'opposition ?
Oui, c'est très légitime. La contestation, c'est l'essence même de la démocratie. On ne peut pas avoir des idées qui convergent à tout moment. Et c'est tout à fait normal. D'autant plus que moi, j'ai écouté beaucoup de leaders politiques qui ont contesté cette constitution dans la forme et même dans le fond. On a eu assisté quand même à une conférence de l'ANC qui a fait beaucoup de revendications et même a contesté beaucoup de points de cette constitution-là. Je pense que ce sont des éléments qu'il faut essayer de mettre en exergue pour permettre à ce que cette constitution-là puisse être améliorée. Ça a été adopté. On peut ne pas être d'accord avec la forme ni avec le fond, mais je pense qu'un test n'est pas figé. On peut toujours améliorer un test de loi. Et le pouvoir en face aussi ne doit pas être fermé. C'est ça aussi qui radicalise un tout petit peu les leaders politiques de l'opposition, parce qu'à un moment donné, vous parlez, mais il n'y a personne qui vous tend la main, il n'y a personne qui vous appelle à discuter autour d'un sujet. Et même le CPC qui regroupe quand même certains partis politiques, beaucoup n'étaient pas au courant même de l'adoption de cette nouvelle constitution. Ils ont appris ça juste comme ça quand le test a été envoyé à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les leaders politiques ne se sont pas retrouvés autour du test pour en parler, pour discuter avant l'adoption de ce test-là. C'est ce qu'aujourd'hui les gens disent en parlant d'adoption par voie référendaire et autres. Bon, c'est un débat qui est déjà passé puisque la Constitution est adoptée et les institutions ont commencé à être mises en place. Maintenant, comment on va travailler pour améliorer cette institution-là? Je pense que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et moi, je dirais que les tests ne valent que par leur mode d'application et les institutions qui les incarnent ne vaudront que par les personnes qui vont les incarner. C'est ça le plus important aujourd'hui. Qui sont ceux-là qui vont incarner les institutions? C'est ça aussi le problème aujourd'hui, parce que tu as parlé du fait que ce sont les mêmes personnes qui sont qui vont implémenter cette 5e République-là. Bon, je ne sais pas ceux qui vont accompagner le président du Conseil dans son gouvernement, je ne le sais pas. Et la différence aujourd'hui est que avant, le gouvernement était nommé sur proposition du Premier ministre. Mais aujourd'hui, c'est le président du Conseil qui est devant de la scène. C'est lui qui choisit les membres de son gouvernement et c'est lui qui sera responsable devant le Parlement. Maintenant, moi, la plupart du temps, quand on parle de réalité, c'est vrai, à l'adoption de la Constitution, les tenants de la Constitution ont parcouru pratiquement toutes les chaînes pour dire que non, nous, cette Constitution-là, le régime parlementaire répond plus à nos réalités et tout, mais à la fin, on se rend compte que ce n'est pas une question de réalité. C'est un régime parlementaire, les gens sont partis en Inde, après, il y a eu des comparaisons par rapport au régime italien, au régime canadien, au régime indien, ainsi de suite, donc on peut dire que ce n'est plus une question de réalité, puisque dans notre réalité, la question de l'autorité, c'est la royauté, c'est la chefferie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la royauté, ce n'est pas la chefferie. À moins qu'on veuille donner raison à ceux-là qui disent qu'on a taillé le test pour quelqu'un. Donc, pour moi, je pense que le champ politique doit être assez ouvert et le parti au pouvoir et les leaders de l'opposition doivent accepter de s'asseoir autour d'une table, parce que moi je le dis, nous avons au moins un pays qui sait résoudre ses problèmes par le dialogue. Depuis fort longtemps, on a toujours, même les crises les plus fratricides, on est arrivé à les résoudre par le dialogue. Et je pense que avec ce cœur de Togolais que nous avons, avec cette envie de développement que nous avons pour notre pays, on doit arriver à s'asseoir autour d'une table de discussion et faire en sorte que ce test-là soit amélioré et que les leaders qui sont aujourd'hui sur le terrain soient permis de faire leurs activités politiques, parce que ça aussi, ça pose problème. Les leaders se plaignent tous les temps que, dans certaines zones, on ne leur permet pas de manifester. Or, un parti politique n'a pas d'autre moyen que de faire ses activités politiques, à savoir les meetings, les marches et autres, là, pour se faire entendre et, au moment des élections, donner son programme de société à la nation pour que, on puisse voter pour eux. Donc, pour moi, je pense que on doit dépassionner le débat et savoir que nous sommes fils et filles d'un même pays. On doit s'asseoir, améliorer ce qui doit être amélioré, donner des palliatifs à ce qui doit être soutenu.
D'accord. Oui, mais Samir, les contestataires hein, de cette nouvelle constitution demandent souvent, quand vous les écoutez, bien sûr, dans leurs propos, ils demandent le retrait pur et simple alors de cette nouvelle constitution. Est-ce que c'est encore possible?
Mais écoutez, Pascal, je suis de ceux qui se réjouissent. Comme au Togo, nous avons encore cette chance de voir les partis politiques exercer véritablement, parce que nous sommes un pays de droit, un pays démocratique, un pays en voie de renforcement de sa démocratie. Et heureusement, nous avons les textes qui régissent le fonctionnement et puis l'exercice donc des activités des partis politiques. Et on sait que la première vocation des partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Même si, entre autres, leur mission, c'est de pouvoir contribuer à l'éducation citoyenne des populations. Mais comment voudriez-vous que des partis politiques de l'opposition qui ont pour vocation de conquérir le pouvoir et de pouvoir l'exercer applaudissent ceux qui gagnent toujours ? Et ceux qui opèrent des réformes institutionnelles et constitutionnelles, je pense qu'ils sont dans leur rôle d'opposition. Ils sont dans leur rôle d'opposition. Et je suis de ceux qui pensent qu'en réalité, l'espace civique doit être ouvert. On doit faire en sorte que lorsque vous n'êtes pas d'accord par rapport à une réforme, lorsque vous n'êtes pas d'accord par rapport à un certain nombre de mesures qui sont prises par ceux qui gouvernent, que vous puissiez pouvoir l'exprimer. Mais tout en respectant les lois de la République qui régissent la liberté d'expression et puis la liberté de manifestation. Parce que nous avons des tests allant dans ce sens-là. Et au-delà, je suis aussi de ceux qui pensent qu'en réalité, lorsqu'on a fini d'exprimer nos observations, lorsqu'on a fini d'apporter des critiques par rapport à ce qui se fait, et qu'on n'a pas pu être entendu, et que nos observations n'ont pas réussi une écoute attentive, et que tout cela n'a pas été pris en compte dans la mise en œuvre donc de ces réformes-là, mais je suis de ceux qui pensent, et tous ces leaders de partis politiques ont l'ambition de diriger un pays un jour. Et donc, quand vous êtes dans un pays de droit, et vous vous retrouvez dans cette situation où on sait qu'un État, c'est d'abord un territoire, c'est ensuite la population, c'est après les progrès de puissance publique, et qu'une loi est rentrée en vigueur, c'est-à-dire une loi a été promulguée, que vous soyez d'accord ou vous ne soyez pas d'accord, cette loi, du moment où vous êtes sur le territoire togolais, s'applique à vous parce qu'elle renferme un certain nombre de droits dont vous allez jouir, mais un certain nombre d'obligations que vous devez respecter. Et au-delà, j'ai aussi entendu dire qu'il y a énormément de contestations parce que cette réforme constitutionnelle a été opérée sur fond de contestations, qu'il y a les populations qui ne sont pas d'accord, et les acteurs de l'opposition qui ne sont pas d'accord, il y a les acteurs de la société civile. Mais la fois dernière, le 3 mai, j'ai suivi sur la télévision nationale les réjouissances populaires pratiquement dans toutes les préfectures du Togo, dans toutes les régions. Il y avait les populations de part et d'autre. La question que je me suis posée, Pascal, je pense que vous vous êtes posé la même question. Mais la population qui est vent debout contre cette réforme constitutionnelle, c'est elle qui est sortie pour soutenir ce basculement institutionnel de la 4e République vers la 5e République.
Mais là, ce sont
des fêtes qui ont été organisées.
Oui, de quoi est-ce que ça a été justement organisé? On parle pas lors de la Constitution.
Monsieur Pascal, je n'ai pas encore fini. Au-delà, je me suis posé une autre question. Est-ce que ceux qui soutiennent l'idée que ces populations-là ont été déplacées parce qu'un certain nombre de bus ont été mis à leur disposition, je me posais aussi la question. Est-ce que si l'opposition met à disposition des populations des bus, est-ce que ces populations allaient se déplacer massivement aussi? Il n'y a pas une certitude dans ce sens-là. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la population, c'est l'outil que les politiques utilisent. Quand ça les arrange, on dit que les populations sont derrière nous. Quand on sent que les populations ne sont pas derrière eux, on dit que la population a été manipulée véritablement. Nous devons dépasser ces débats-là. Et pour finir, si vous permettez,
oui, rapidement.
Le choix d'un régime politique, en fait, n'est pas synonyme de développement d'un pays. Là, vous avez un indice qui s'appelle EIU. C'est un indice qui mesure le degré de démocratie dans les pays. Le premier, en termes de démocratie, parce qu'ils ont trois intervalles. Il y a des démocraties parfaites, il y a des démocraties imparfaites, il y a des démocraties hybrides, c'est-à-dire que des démocraties qui vacillent entre les démocraties parfaites et imparfaites. Et puis, il y a des démocraties autoritaires, au fait. Et vous serez surpris que
les États-Unis ne sont pas une démocratie parfaite dans le classement de 2024. Les États-Unis que vous connaissez, la France que vous connaissez, l'Allemagne que vous connaissez ne sont pas des démocraties parfaites. Ce sont des démocraties hybrides qui vacillent entre des démocraties parfaites et les démocraties imparfaites. Et en Afrique, vous avez le pays comme l'île Maurice qui est de tradition parlementaire, qui occupe le premier rang. C'est le pays le plus, c'est la seule démocratie parfaite sur le continent africain. Même le Sénégal, même le Rwanda, même le Nigeria, même le Ghana, tous ces pays-là sont des démocraties imparfaites.
Ah, c'est finalement, pour dire... finalement, quand on parle de démocratie, ça devient l'idéal à atteindre et que c'est un processus.
Non, c'est pas un idéal. C'est plutôt un choix. Un choix citoyen. C'est-à-dire les questions constitutionnelles, les questions de réforme, c'est d'abord un débat de citoyens. Parce que c'est la vie de la cité, c'est la vie de la nation. C'est pas un débat de politique, c'est pas un débat de scientifique. A priori, c'est pas un débat d'élite, c'est un débat citoyen, c'est un débat de la revendeuse qui est au bord de la route, c'est un débat de l'instituteur qui est à l'école, c'est un débat d'un fonctionnaire qui est au bureau véritablement. Donc en réalité, ce sont des choix, moi je l'ai toujours dit, ce sont des choix qui sont opérés à un moment donné de l'évolution de l'histoire d'un pays, en tenant compte des considérations historiques, des considérations sociologiques, d'accord, et des considérations de l'évolution institutionnelle donc du pays. Donc en fait, il n'y a pas un régime politique qui soit adapté ou non, parce qu'il y a un débat qu'on devrait rester dans un régime présidentiel, et on a un débat qui dit qu'on ne devrait pas aller dans un régime parlementaire. En fait, à un moment de l'histoire de votre vie, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à où vous devez vous voulez atteindre, vous faites un choix d'aller vers là. Vous pouvez vous tromper ou vous pouvez réussir donc ce défi-là. D'accord. Donc en fait, ce choix donc d'aller vers un régime parlementaire ne doit pas être perçu sous ce vocable-là. Moi, je peux permettre à ce que les politiciens puissent dire que ben, c'est vrai, c'est un débat qui est adapté, qui va nous permettre de nous développer. Mais en fait, nous devons aller au-delà, pousser la réflexion pour dire qu'en fait, c'est un choix que nous avons fait. D'accord. Nous devons l'assumer et faire en sorte que dans la mise en œuvre, et qu'on puisse profiter de ce que la Constitution nous offre comme outil pour permettre à ce qu'on puisse améliorer les conditions de vie de la population.
Merci, Samir. Oui, Firmin, je vous livre alors la une alors du journal Liberté. Liberté qui écrit ce matin, Togo, une alternance de l'osive pour le pire sans le meilleur. Et après tout, le journal continue et écrit, investiture de Fornia Simbe, touche pas à ma constitution, dénonce un ultime sacrilège contre la souveraineté du peuple. Alors, finalement, quand on prend ces et qu'on écoute justement cette question les uns les autres quand même quand on prend le tenant de la nouvelle constitution, il parle plus alors d'alternance à la tête alors du pouvoir. Est-ce que finalement il y a eu vraiment cette alternance là?
Vous savez, le lendemain, c'était le même jour, j'ai écouté sur une radio internationale, on a dit Fornia Simbe n'est plus le président de la République. J'ai tiqué, en fait. Vous imaginez, on dit Fornia Simbe n'est plus le président de la République. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Fornia Simbe, qui était au pouvoir, qui était à la présidence de la République pendant 20 ans, son papa avait fait 38 ans, on dit lui, il n'est plus président de la République. Quand vous écoutez ça déjà, vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Vous savez, si on veut s'attarder sur la forme, on peut dire qu'il y a alternance. Si on veut s'attarder sur la forme, on peut dire qu'il y a alternance. Parce qu'au niveau à la présidence de la République aujourd'hui, ce n'est plus un Simbe. Ce n'est plus unir, c'est un opposant à la tête du Togo. Le chef de l'État togolais aujourd'hui, c'est un opposant. Vous lisez l'article 40 de la Constitution de 2024, 5e République. On dit le président de la République, il est le chef de l'État. Ça veut dire le président de la République du Togo aujourd'hui, il est le symbole de l'unité nationale. Le président de la République aujourd'hui du Togo, c'est un opposant. C'est Savi de Tovey. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire du Togo, ils ont fait la conférence nationale avec les Kofi et autres. Donc, quand on veut parler de la forme, aujourd'hui, on a alternance à la tête. Bon, on peut aujourd'hui critiquer le fond en disant que les pouvoirs sont concentrés entre les mains de Fornia Simbe. Sinon, par rapport à la forme. Maintenant, quand on parle de souveraineté, on parle de sacrilège. Oui, tout le monde, ça va de tous les commentaires possibles. Chacun tire le drap de son côté. Mais moi, je dis toujours quelque chose. Abstraction faite de toute considération politique. Vous savez, on va toujours le répéter. Quand vous êtes au pouvoir, c'est vous qui voyez ce que les autres ne voient pas. Vous entendez ce que les autres n'entendent pas. C'est comme Jésus qui a dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Par exemple, nous, il y a des choses qu'on devait voir, qu'on ne voit pas. Mais ceux qui sont à la tête de ce pays, qui sont les patrons des renseignements, qui ont une certaine ambition pour le pays, voient des choses que nous ne voyons pas. Peut-être ces choses-là peuvent les amener à changer de constitution. Les gens disent, on a changé de constitution. Mais vous savez, en 19 ans, le Sénégal a changé deux fois sa constitution. Ce que les gens ne savent pas. Ouada a changé la constitution. Macky Sall aussi a changé la constitution en 2019. Ouattara, il est venu, il a fait un mélange à la tête du pays. On a, en Côte d'Ivoire, on a dans un même pays, vous avez un président et un vice-président. Dans ce même pays, vous avez un président et un premier ministre. C'est quoi? C'est tout un cafouillage institutionnel. Régime présidentiel et régime présidentiel qui se mélangent. Vous imaginez ça? Donc le Togo, en fait, si on veut raisonner, quand on parle de régime politique, le Togo n'a commis aucune erreur. C'est ce qui se passe régulièrement. Les Français touchent à leur constitution régulièrement 25 fois, plus de 25 fois depuis 1948. Tout ce que moi je dis, moi je n'ai rien à reprocher à ce régime. Parce que surtout qui sont au pouvoir, c'est politique. Peut-être ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils feraient la même chose lorsqu'ils peut-être arriveront.
Peut-être ils ne sont pas encore là. Il ne faut pas les juger.
Et puis l'autre chose, quand on parle de souveraineté de l'État, bon, les gens disent, les acteurs de l'opposition disent que le peuple n'est pas d'accord. Vous savez ce que Donald Trump dit? Donald Trump dit, donc il y a des gens en 2022 que je veux positionner en 2028. Quand je vais aller en 2028, je vais gagner. Rien ne le prouve. Vous savez, avant qu'Obama le quitte, il est allé au dernier sommet, à son dernier sommet de l'Union africaine. Il dit, vous savez, les sondages sont en ma faveur. Lorsque je vais aller là, les Américains vont voter pour moi. Qu'est-ce qu'il le prouve? Vous savez, chacun essaie de donner le commentaire qui lui sert. Il faut être pragmatique dans ce que nous sommes en train de vivre. Le Togo est en train de tourner une page. Mais que le pouvoir n'interdise pas l'opposition de contester. L'article 2 de la nouvelle constitution dit que le Togo a fait le choix de la démocratie. Le gouvernement du peuple, pas le peuple, et pour le peuple. L'opposition, c'est son droit le plus absolu de contester. En tout cas, en restant dans les limites de la loi.
D'accord. Professeur, on va évoluer rapidement. Professeur, nous sommes dans la 5e République. Qu'est-ce que les Togolais doivent attendre alors de cette nouvelle constitution ou de cette nouvelle République?
On le disait tantôt, et il ne suffit pas de proclamer un texte pour que le lendemain, le peuple soit heureux. C'est comment on met en œuvre ce texte. Et on appréciera la 5e République par son fonctionnement, par les hommes qui sont appelés à la mettre, à l'animer. Et aujourd'hui, l'attente des Togolais, c'est l'attente de tout le monde. Les Togolais souhaitent et avoir les 3 repas par jour. Les Togolais souhaitent avoir de l'eau potable. Ils souhaitent se faire soigner dans de bonnes structures sanitaires. Ils veulent aller à l'école. Ils veulent avoir des universités plus performantes, etc., etc. Donc c'est ce que le Togolais attend de la 5e République. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut donner l'occasion à cette 5e République-là de se déployer et qu'on puisse la juger sur la base des faits et gestes posés.
Oui, professeur, est-ce qu'on a forcément besoin d'un changement de régime avant d'arriver vraiment à satisfaire ces besoins dont vous venez de parler?
Vous voyez, chaque pays a ses problèmes. Chaque pays a ses problèmes et chaque pays règle ses problèmes en fonction de ses réalités. Tantôt, on évoquait le cas du Sénégal, le cas de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Lorsque vous sortez d'une crise comme celle de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, oui, le fait de créer un poste de premier, de vice-président, de premier ministre, je pense que si c'est ça qui peut régler une partie des problèmes, ce n'est pas le poste du vice-président ou du premier ministre qui crée problème. Et c'est pour ça que nous disons, oui, on n'avait pas fondamentalement besoin de changer de constitution pour apporter le bonheur au peuple togolais. Mais s'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut régler, et le règlement de ce problème puisse permettre le développement du pays, il faut le régler. Et je le disais tantôt, dans un pays comme le nôtre, où les élections présidentielles étaient des élections extrêmement violentes, suivies de morts d'hommes, si la 5e République peut au moins éviter des pertes en vies humaines, pour que ces femmes et ces hommes puissent se consacrer au développement du Togo, je pense qu'on aurait fait déjà œuvre utile. Et puis, il faut le dire et le marteler. J'ai entendu aussi que Oui, il faut laisser l'opposition manifester. Je pense que c'est normal qu'il faut laisser l'opposition manifester. Mais nous avons un atout, un avantage au Togo. Et effectivement, il faut insister sur cet avantage-là. C'est l'esprit d'ouverture et l'esprit de dialogue. Vous savez, en 91-92, on aurait pu basculer dans une guerre civile. Mais les Togolais ont réussi à se mettre au-dessus et discuter. Les discussions ont été difficiles. Les accords, parfois, difficiles à mettre en œuvre. Mais le fait que les leaders et les acteurs politiques aient accepté de discuter a pu éviter et au Togo un certain nombre de choses. Et vous voyez, les gens nous disent, oui, nous avons fait 25 dialogues, nous avons fait 26 dialogues, nous ne voulons pas un 27e, nous ne voulons pas un 28e. Moi, je pense que tant que la vie est là, on ne peut pas s'empêcher de discuter. Et aujourd'hui, les acteurs politiques doivent effectivement discuter. Maintenant, discuter sur quoi? Discuter sur quoi? Nous avons une 5e République qui a été actée. Aujourd'hui, les institutions sont mises en œuvre. Il faut y aller. Maintenant, nous allons discuter sur quoi? C'est justement là où, moi, je pense que les différents acteurs politiques devraient faire preuve de créativité en faisant des propositions concrètes, en faisant des contre-propositions qui obligent le pouvoir à les écouter, à se dire, oui, ce qu'ils disent n'est pas insensé. Assoyons-nous pour voir comment est-ce qu'on corrige ce qui était mal fait, comment est-ce qu'on rend parfait ce qui est imparfait. Et c'est pour ça que je dis que lorsqu'on reste dans une contestation, et on va dire creuse, sans aucune proposition, sans un débat de fond, et qu'on se limite à des slogans, il me semble que nous-mêmes, en tout cas les acteurs politiques eux-mêmes ne se donnent pas de crédibilité. Oui, il faut contester ce qui se fait, mais il faut contester avec des propositions concrètes pour que, oui, ceux qui sont au pouvoir se disent, oui, ce qu'ils disent n'est pas toujours insensé, assurez-nous pour mieux écouter et voir comment est-ce qu'on corrige. Est-ce qu'on a fait ce qu'ils devaient faire? Est-ce qu'on a fait dans des conditions les plus idéales? Oui, on peut se dire, peut-être qu'il y a des choses à corriger et dans ces discussions-là, on pourrait avoir des idées les plus innovatrices, les idées les plus neuves pour pouvoir construire.
Une chose est de discuter, mais l'autre, c'est de mettre en application tout ce qu'on a eu à apprendre ou à formuler comme des recommandations.
Et moi, je pense que c'est déjà une bonne chose de discuter. Et puis, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que tout ce qui sort des discussions n'est pas mis en œuvre. C'est vrai que lorsque vous prenez les principaux accords qui ont été signés entre les acteurs politiques, oui, il y a des pans qui n'ont pas été mis en œuvre, mais il y a une bonne partie quand même qui a été mise en œuvre. Et vous savez, les acteurs politiques eux-mêmes ne sont pas dupes. Ils savent qu'un accord reste un accord, mais si on met au moins, au minimum 20%, 30%, 40% de ce qui a été convenu en œuvre, je pense que les acteurs politiques, sans le dire, sont déjà heureux de ce que une bonne partie des recommandations a été mise en œuvre. On ne peut pas s'attendre non plus, ici comme ailleurs, à ce qu'on mette en application tout ce qui a été décidé, parce que après les discussions, après l'accord, la vie politique, et la vie politique continue, il y a des mutations, il y a d'autres éléments extérieurs qui viennent mettre en cause ce qui a été acquis. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il est important que les acteurs politiques puissent discuter, mais il faut qu'ils discutent sur des sujets pertinents parce que le débat pertinent a été posé.
Professeur, cette dernière question avant qu'on aille à la pause. Professeur, pourquoi le président du Conseil ne s'est-il pas présenté aux législatives, aux élections législatives, aux dernières élections législatives?
Et sans être juriste, je pense qu'on était dans une situation transitoire où le président de la République ne pouvait pas se dédier en tant que président de la République et candidater à une élection législative. Il n'est pas exclu, en tout cas les textes ne l'interdisent pas, il n'est pas exclu que pour les élections législatives prochaines, que le président du Conseil puisse être candidat à un poste électif. Mais qu'à cela ne tienne, si le président du Conseil, dans l'architecture qui est celle de la 5e République, est le chef du parti majoritaire, que son parti gagne l'élection, en fait, il a été élu de façon indirecte. puisque c'est lui qui porte le débat. Et vous avez, même dans les démocraties les plus avancées, en France, aux États-Unis ou ailleurs, vous allez vous rendre compte que pour un certain nombre d'élections, le président de la République se met au-dessus de la mêlée, mais pour les élections législatives, par exemple, il est tenté de descendre dans l'arène politique parce qu'il est le responsable d'un parti politique et il souhaite que ce parti politique la gagne pour lui donner plus de crédibilité, pour lui donner plus de cohérence dans l'exercice de ses fonctions. Donc, pour nous résumer, oui, il n'est pas exclu que pour les prochaines élections, le président du Conseil descende dans l'arène, soit en tant que candidat ou en tant que soutien des candidats que son parti a présentés.
D'accord. Gabin, vous voulez dire quelque chose, 30 secondes?
Oui, c'est bien que le professeur ait insisté quand même sur l'idée du dialogue. Et encore que le président actuel n'est pas obligé de participer aux élections s'il reste bien sûr le président de son parti politique, à moins que le parti n'organise un congrès. Alors là, forcément, sans pour autant participer aux élections, il demeurera le président du Conseil. C'est ce que les tests ont prévu. Maintenant, par rapport à ce que Firmin disait à l'alternance, on n'est pas dans l'alternance. Non, c'est pas de l'alternance. L'alternance, on parle beaucoup plus de changement de pouvoir. Et celui-là qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est le président du Conseil. Quelqu'un ne peut pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux et autres là. Et puis on va dire que non, il y a de l'alternance parce qu'il y a un président.
Tu as parlé du fond et de la forme.
Oui, tu as parlé du fond et de la forme. Mais que ce soit dans le fond ou bien dans la forme, il n'y a pas de l'alternance. Le président de la République, en l'article 40, c'est stipulé que le président de la République est le chef de l'État, il est le symbole de l'unité nationale, certes, mais ça va dépendre de ce qu'il va faire. Maintenant, j'ai une suggestion aussi par rapport à une question au professeur, peut-être qu'il va me répondre dans 30 secondes. L'article 95 stipule que les institutions prévues par la présente constitution ne peuvent, leur mise en place ne peut excéder 12 mois. Maintenant, il n'y a pas que ces 15 institutions qu'on vient d'avoir. Il y a le protecteur de la République qui ont changé tant dans leurs attributions que dans leur contenance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces institutions-là? Je ne sais pas trop.
D'accord. C'est une question. Je pense que le professeur a écouté. Mais nous allons... Vous savez également que le principe de l'émission, c'est de donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat. C'est sûr. Nos deux numéros, 90 86 35 35 91 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous allons observer une pause et nous reviendrons juste après pour la suite alors de cette émission.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Professeur, je vais vous prier alors de porter le casque qui est devant vous pour mieux écouter vos compatriotes qui auront certainement des questions à vous poser. 90 86 35 35. Allô?
Oui, salut,
bonjour, comment vous allez?
Je m'appelle Jérémy.
Jérémy, vous nous appelez de quel quartier?
Allô?
Vous nous appelez de quel quartier, Jérémy?
Allô?
Jérémy, je vous écoute. Allô?
Allô?
Oui. Décidément,
je m'appelle Jérémy.
Oui, allez-y.
J'ai écouté le développement des images, mais si on parle de l'état de droit au Togo, moi, je ne crois pas. Parce que si on regarde l'arrivée de notre président du Conseil aujourd'hui, au pouvoir en 2005, c'était un coup d'état constitutionnel. Donc, le Togo n'est pas nous parler d'un état de droit. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci beaucoup, Jérémy, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado. Comment vous allez?
Ça va très bien. Bonjour à notre invité. Bon, vous savez, pour apaiser cette situation-là, moi, je vais dire ce qu'il faut faire. L'Union ne peut pas le faire. L'Union ne peut pas avaler cette comprimée. Il faut refaire la CENI équitablement avec l'opposition. Franchement, c'est la CENI. Si l'Union veut que l'opposition rentre dans la danse, là, refaire la CENI équitablement, comme ça, mettez l'opposition prêt à aller vers la population. Parce que souvent, l'opposition va vers la population, le résultat c'est pas la même chose. À chaque élection, chaque contestation, vous voyez que c'est honteux. Lui mettre le courage et arrêter la semaine. Le président à la tête. Et l'unir à vice-président, et on va voir. Monsieur, bonjour.
Merci beaucoup, monsieur Gado, pour votre intervention. Bonjour, le plateau. Pour bien gouverner et faire développer un pays, on n'a pas besoin de quelques régimes, que ce soit les gens qui ont échoué dans le régime présidentiel ne peuvent rien faire. Dans le régime parlementaire, le peuple n'est pas dupe. Le temps nous dira la vérité. C'est Mohamed qui nous écoute depuis Casablanca, 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Ouais, bonjour, monsieur.
Oui, votre nom, c'est
Mawina.
Mawina, vous nous appelez de quel quartier?
À Corétera.
Allez-y.
Oui, j'ai bien écouté. Et ça va convaincu. Donc, je me dis, ouais, puisqu'il parle de tout ce qu'il a, pourquoi il ne peut pas s'approcher d'un chef de l'opposition qui a un programme qui est déterminé pour le Togo, par exemple Nicolas Lafont. Vous voyez, ils ont des gens comme ça, mais ils veulent toujours raconter le peuple. Donc, le monsieur n'intervient plus. Je dis souvent que seul un chien de chasse peut distinguer un autre artificiel. Le parti humain jette un autre artificiel aux journalistes qui débattent autour de ça et il est officiel. Nous sommes dans la 5e République. On ne peut plus changer cela. Maintenant, je demande un bon à une d'approcher maintenant ces chefs de parti politique qui avaient eu un programme idoine pour sauver le Togo. Je vous en prie.
D'accord, mais...
Même s'ils n'acceptent pas, il faut. Ils savent comment. Parce que je me dis que unir, peut-être unir, n'est plus un parti. Mais c'est une religion. Ouais.
Merci beaucoup, ouais. Monsieur Mawena, pour votre intervention, puisqu'il y a beaucoup de personnes, bien sûr, en ligne. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Allô?
Oui, je vous écoute. Comment vous allez?
Bonjour.
Oui, votre nom c'est?
Allô?
Décidément, il n'a pas de retour. Kiki, nous allons recevoir un autre auditeur. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, votre nom c'est?
C'est Agbovon depuis Zanguera.
Ah, monsieur Agbovon depuis Zanguera.
Oui.
Allez-y.
Oh, merci beaucoup. Je vais poser cette question aux invités là-bas. Moi, je suis un auditeur. Notre père actuel n'avait-il pas perdu son droit civique si les informations nous disent que il a été condamné. C'est l'information là, sur ça que je base pour vous poser cette question. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Agbovon, pour votre intervention. Il y a Kossi, bien sûr, qui nous écoute et qui dit bonjour. Je crois humblement qu'il fallait tous ces éclaircissements avant l'adoption de la Constitution. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, il est parti. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Oui, bonjour, grand frère.
Bonjour, comment vous allez?
Je suis venu aujourd'hui.
C'est Benoît?
Oui.
Benoît Dagoué, allez-y.
Ok, merci. Je salue le plateau. Moi, mon problème, c'est pas le régime, ni le parti politique. Mon problème, c'est le bien-être de nous, le Togolais, c'est la population. Et je ne sais pas comment dire l'état de la nation, le bilan de la nation, comment se porte le Togo. Le 5e République, je pense que même si nous, les Togolais, ne sommes pas d'accord, les étrangers aussi ne sont pas d'accord. Parce que à l'indépendance, au bout de prestation de serment du chef de du chef du conseil, il n'y a aucun chef d'État. C'est que le président de la République doit savoir, le président du conseil doit savoir qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le pays. Il n'a qu'à revoir l'état de notre cher pays, le Togo. Merci et bonjour.
Merci beaucoup, Benoît, pour votre intervention. Bonjour, Pascal, et au professeur et à tous les invités. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement est accusé à double facette par certaines personnes. Il y a bien alternance, mais c'est la manière par laquelle agit l'opposition. Elle voit le mal partout. Cette opposition opportuniste, c'est Aristide qui nous écrit 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Ça va bien.
Votre nom, c'est?
Agbetoukou depuis Diablé.
Agbetoukou?
Agbetoukou.
Allez-y.
Ok, d'accord. Je voulais poser une question à nos invités. Tel que je viens d'expliquer, s'ils savent très bien que unis à la majorité, pourquoi ils ne confient pas à l'organisation des élections à une seule personne? C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est même pas de l'opposition ni du ligne, qui peut tout ça organiser les élections, verra très bien si vraiment uni à la majorité.
D'accord. Merci beaucoup, mon cher ami. 90-86-35-35-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Bien, bon.
Ça va aussi, votre nom c'est... Pardon?
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi, vous nous appelez de quel quartier?
Dans Civito, s'il vous plaît.
Dans Civito, allez-y.
Oui. Bon, en fait, je ne sais pas à qui répond ma question. Depuis la venue du AMU, le gouvernement a oublié de régler les pensions et les allocations familiales. Je ne sais pas si c'est à cause de la mue qu'ils ont oublié de faire, de reverser et tout ça.
Monsieur Kofi, Monsieur Kofi plutôt.
Oui.
Vous nous avez suivi tout au long de l'émission?
Non, je viens de capter votre réponse.
Ah, mais décidément, nous avons parlé plus politique et avec notre invité. Je pense on va donner la parole à une autre personne. 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Monsieur Nyamavo.
Allez-y.
Oui, l'invité dit un professeur. Je suis un peu désolé. Il dit que l'opposition fait des contestations creuses. Ils font que faire des réactions sans proposition. Même, on ne fait pas au dialogue. C'est grâce à l'opposition que le chef de l'État a envoyé les gens sur le terrain pour consulter le peuple, parce qu'il ne l'avait pas fait. L'opposition a attiré son attention que l'opposition a proposé quoi, le référendum. Mais comme il ne pouvait pas le faire, il n'a pas pu signer. Il a renvoyé ça à la relecture. Mais ils ont organisé une tournée pour consulter le peuple. Mais c'est biaisé. Et vous savez, Firmin, vous allez me dire entre le peuple et le chef de l'État qui est plus sage. En 2005, plus jamais ça au Togo. Les gens qui sont morts ne sont pas encore remplacés. Vous avez vu comment les ninjas ont intervenu au siège de la CDPA, il n'y a pas, ça ne fait pas encore un an. On était même dans la transition. Mais jusqu'alors, est-ce qu'on a trouvé ceux qui sont allés frapper les gens? Le peuple ne veut pas se faire tuer inutilement. Et on a regardé pour faire ce qu'il veut. C'est pourquoi quelqu'un disait qu'il peut vaincre, mais il ne peut pas convaincre. Bonne émission.
Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Je pense que Monsieur Nyamavo, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Voilà, nous allons revenir en plateau. Professeur Batiana, vous avez écouté les uns les autres. C'est vrai, il y a des observations que certains ont eu à faire. Et il y a également certains qui ont posé des questions. Je sais que vous avez noté beaucoup de choses, bien sûr. Vous voulez bien quand même répondre à ces auditeurs qui ont posé des questions.
Je voudrais remercier et féliciter les auditeurs pour les questions qui ont été posées et qui montrent justement que la préoccupation des Togolais aujourd'hui n'est pas que politique. ce sont des préoccupations quotidiennes, de la vie quotidienne. Et vous avez vu, Kofi évoque la question de AMU. Et d'autres personnes pourraient évoquer d'autres sujets qui sont des sujets importants sur lesquels on peut débattre et ou sur lesquels, effectivement, la classe politique comme la société civile peut apporter des éléments de correction pour améliorer ce qui est fait. Et pour le reste, j'ai écouté des commentaires, mais sur lesquels je vais faire deux ou trois observations assez rapides. C'est sur la question de la CENI. Sur la question de la CENI, et je vous le disais, et je le dis à haute et intelligible voix, qu'en 2017, je faisais partie de cette commission de réforme. Et la question de la réforme de la CENI était une question majeure. Et à l'époque, nous avions même envisagé de proposer que la CENI soit une CENI technique. Mais vous allez être surpris, ceux qui ont refusé l'idée d'une CENI technique, ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. Ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. C'est l'opposition et l'argument qu'ils avançaient, on peut également les comprendre, c'est que dans un contexte comme celui du Togo, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas une personnalité neutre. Sinon, on peut tenter de dire que tous les présidents de la CENI jusqu'à aujourd'hui, ce sont soit des représentants de l'administration ou des représentants de la société civile. Mais ça n'a pas empêché qu'on pense qu'effectivement, ils ont une couleur politique. Pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas fondamentalement la CENI, mais c'est comment on s'organise à la base pour aller à l'élection. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut véritablement s'organiser et faire des propositions ou des débats constructifs. Loin de moi de dire que les débats sont creux au niveau de l'opposition. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis qu'il ne faut pas se contenter des slogans. Il faut s'organiser. Et lorsque vous regardez les élections législatives et régionales qui ont été organisées le 29 avril 2024, je peux vous avouer que j'étais quand même assez surpris. J'étais assez surpris qu'à Lomé, il y ait environ 26 ou 28 listes concurrentes, donc 27 listes concurrentes contre unies, et que l'intérieur a été plus ou moins abandonné. Dans certaines préfectures, on s'est retrouvé avec deux listes, trois listes. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas espérer gagner une élection. Et donc, pour moi, c'est l'organisation qu'il faut revoir, et non fondamentalement la CENI sur laquelle, effectivement, des corrections peuvent être apportées. Et je ne veux pas laisser... Et je pense à Gauvin qui parle de la perte des droits civils du président de la République. Non, il faut faire extrêmement attention. Et le président de la République faisait partie de cette opposition ouverte, avant même le multipartisme, et qui a été condamné, je peux me tromper, en 1979 dans une affaire de tentative de coup d'État avec des personnalités comme Gilles-Christ Olympio et autres. Condamné à 10 ans de prison, et je pense qu'il n'a pas fait les 10 ans. Il a bénéficié d'une grâce qui lui a permis de retrouver ses droits civiques, au titre desquels il a été ministre du commerce du Togo. Et d'ailleurs, entre 2012, 2013, 2014, c'est lui qui a présidé une partie du CPDC, le dialogue entre les acteurs politiques. Donc, c'est un monsieur qui a recouvré depuis fort longtemps, d'ailleurs, ses droits civil et merci et civil et politique.
D'accord.
Donc pour le reste, je pense que ce sont des commentaires qui ont été faits, sur lesquels effectivement, je pense qu'on peut prêter une attention, une oreille attentive.
D'accord, professeur, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin.
Je voudrais dire que nous sommes en plein pied dans la 5e République. Je disais en introduction, vive la 5e République. Mais vivement que le fonctionnement de la 5e République réponde aux aspirations du peuple togolais. Vous voyez, un texte ne peut pas être un texte fondamentalement figé, qui a appelé à être corrigé au vu de ce qui se fait. Et c'est pour ça que moi, j'exhorte les différents acteurs politiques à scruter de façon assez minutieuse le fonctionnement de la Ve République, à faire des propositions pour que, s'il y a des corrections à apporter, que ces corrections puissent être apportées.
D'accord, merci beaucoup. Kamel, nous sommes à la fin de cette émission. 30 secondes.
Oui, pour approfondir un tant soit peu ce que le professeur a dit par rapport à la possible déchéance civique du président de la République de sens Jean-Lucien Sanvie de Tauvé, j'aimerais dire que, bon, il n'a pas été le seul condamné dans cette histoire, ils étaient nombreux, mais par après, ils ont été graciés par le président général et Adema, mais ils ont recouvré quand même, puisque la grâce n'enlève pas les charges et la déchéance civique. Ils ont quand même recouvert leurs droits civiques après la conférence nationale souveraine. Donc, c'est ce que j'aimerais.
Merci beaucoup. Oui, Samir, 30 secondes.
Ben, je voudrais peut-être apporter quelques éléments sur la CENI. Vous savez que nous avons un code électoral qui a été revu après l'adoption donc et la promulgation de la Constitution du 6 mai 2024. Et selon les dispositions donc du code électoral, les membres de la CENI sont élus pour un mandat d'un an renouvelable. Donc cette CENI est là depuis 2022. Je pense que en attendant qu'on puisse réfléchir à la refonte même de cette institution, il faut juste qu'on fasse un effort de respecter les dispositions du code électoral. Et puis, au-delà, dire qu'en fait, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître qu'au cours de ces 20 dernières années de gouvernance du président Fonia Singbi, rien n'a été fait. Je pense qu'il y a des avancées notables. C'est vrai que les attentes et les défis sont énormes, mais ceux qui gouvernent le pays sont conscients de ces attentes et de ces défis-là. C'est pour ça que nous avons besoin de la stabilité, nous avons besoin d'une paix durable pour qu'on puisse orienter toutes nos actions vers
le merci beaucoup, Samir. Oui, Firmin, 30 secondes.
Oui, merci beaucoup, Pascal. Très heureux d'avoir débattu avec le professeur Batiana. C'est une première du genre dans ma vie. Merci, professeur.
Merci.
Que Dieu bénisse la Ve République. Que Dieu bénisse le Togo.
Et Firmin Takouagbo, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes journaliste et chroniqueur politique. Merci d'être passé. Gabin Adjarou, merci d'être passé dans cette émission. Samir Orosama, merci d'être passé. Professeur Sorana Batsana, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire dans les universités du Togo. Merci d'être passé. Ça fait plaisir de mener justement ce débat avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous, Kiki Société à la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et vous passez un bon week-end.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.